Le 15e jour de notre résidence au Havre. Sur les 9h du soir, comme nous commencions à souper et que le garde en faisait autant, je me sentis frappée sur l'épaule. En tournant la tête pour voir qui c'était, je vis une jeune demoiselle de considération, fille d'un des premiers banquiers de la ville, à qui j'avais prêté quelques jours auparavant un tome de serment. Elle était enveloppée d'une écharpe qu'elle ouvrit pour me dire fort précipitamment et tout en pleurs. « Tenez, cher frère, voici votre livre que je vous rends. Dieu soit avec vous dans toutes vos épreuves. On vous enlève, continua-t-elle, cette nuit à 12h. 4 chariots sont ordonnés à cet effet, et la porte blanche restera ouverte pour votre sortie de la ville. » Je la remerciai de la peine qu'elle avait voulu prendre de venir elle-même de donner cet avis à une heure si indue, et lui demandai comment elle avait pu s'introduire dans notre chambre. « Ce détail, me dit-elle, ne vous touche en rien. Il est plus expédient de vous dire, cher confesseur, qu'on va vous conduire à Paris, dans l'affreuse prison de la Tournelle, pour vous joindre à la grande chaîne qui se rend de cette ville tous les ans à Marseille. J'ai bien voulu, continua-t-elle, vous annoncer cette triste nouvelle, afin que vous n'ayez pas d'inquiétude sur votre destinée et que vous vous prépariez à souffrir constamment cette nouvelle épreuve. » Cela dit, elle s'en alla aussi invisiblement qu'elle était entrée, sans qu'aucun de nos gardes s'en aperçût. Il est très apparent que cette demoiselle au maintien du garde de l'arsenal la permission d'entrer par sa maison qui communiquait à la corderie où nous étions. Quoi qu'il en soit, cela arriva de la manière que je viens de le dire. Nous continuâmes à souper fort tranquillement, après quoi, au lieu d'étendre nos matelas pour nous coucher à l'ordinaire, nous nous mîmes à plier notre petit bagage. Pendant que nous étions dans cette occupation, notre capitaine, suivant sa coutume, passa dans notre chambre pour discourir une heure avec nous en fumant sa pipe. Et nous voyant ramasser notre bagage au lieu de préparer nos lits, il nous demanda ce que nous faisions. « Nous nous préparons à partir à minuit, monsieur, lui dis-je, et vous n'avez qu'à en faire autant. »« Vous êtes fou, me dit-il, d'où vous vient cette frénésie ?»« Je vous dis, répliquai-je, qu'à minuit précis, 4 chariots se trouveront à la porte de l'arsenal pour nous faire sortir par la porte blanche qui restera ouverte à cet effet. » Et vous continuerez à nous conduire jusqu'à Paris et nous livrerez aux prisons de la Tournelle pour y joindre la grande chaîne de Marseille. Je vous dis, répartit-il, que vous êtes fou et qu'il n'y a rien de tout ce que vous venez de dire. J'ai été prendre les ordres de l'intendant à 8h, comme j'ai coutume de faire, et il m'a dit qu'il n'y avait rien de nouveau. Eh bien, monsieur, lui dis-je, vous le verrez. Comme nous finissions ce discours, le laquais de l'intendant entra pour lui dire d'aller sur l'heure lui parler. Il ne tarda pas à revenir et entra dans notre chambre en faisant des exclamations et joignant les mains. « Au nom de Dieu, me dit-il, dites-moi si vous êtes sorcier ou prophète. Je crois cependant que c'est Dieu qui vous favorise, car vous êtes trop dévot et trop honnête gens pour implorer le secours du diable. »« Non, lui dis-je, monsieur, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Il n'y a rien que de très naturel dans ce qui cause votre surprise. »« Je n'y comprends donc rien, dit le capitaine. » Car j'ai appris de la bouche de l'intendant même que personne dans la ville ne sait rien de votre départ que lui et moi. Et quoi que vous puissiez dire, on ne m'ôtera jamais de l'esprit que Dieu est avec vous autres. Je l'espère, lui dis-je. Et lui et nous continuâmes à nous préparer au départ. Il me semble entendre le lecteur demander comment cette demoiselle pouvait avoir ce secret. Je l'ignorerai moi-même encore si le père de cette demoiselle ne nous le dit dans la prison de Rouen, où il vint exprès pour nous remettre le montant d'une collecte qu'on avait fait pour nous au Havre de Grâce dans la vue de nous procurer du soulagement dans la pénible route que nous allions faire de Paris à Marseille. Il nous dit donc que sa fille était recherchée en mariage par le secrétaire de l'intendant du Havre de Grâce, que l'intendant, ayant reçu son paquet de la cour la veille de notre départ, le secrétaire ait lu l'ordre qui nous regardait, et comme il savait, nous dit-il, que ma fille vous affectionnait, il a couru d'abord lui porter cette nouvelle. Quant à son entrée mystérieuse dans la corderie où vous étiez, je n'en sais pas plus que vous, ne lui ayant point fait de questions sur cet article. Je reviens à notre départ du Havre. À minuit, les 4 chariots ne manquèrent pas de venir nous prendre. Nous rions nous-mêmes du secret mystérieux qu'on observa pour nous enlever. Les roues des chariots, ainsi que les chevaux qui les tiraient, étaient déferrées afin que nous ne les entendions pas passer dans la rue. On couvrit chaque chariot d'une voile, comme s'ils n'eussent contenu que des balles ou des paquets de marchandises. Et sans lanterne ni fanaux, l'on nous fit sortir de la ville. Il ne nous arriva rien de remarquable jusqu'à Rouen. En y arrivant, nous fûmes conduits devant la maison de ville pour recevoir du magistrat l'ordre pour notre logement, qui fut, à l'ordinaire, une prison. Mais nous fûmes bien surpris de nous voir refuser par le geôlier de celle où l'on nous mena. Le capitaine d'armes lui montra l'ordre du magistrat, lui faisant des instances pour l'engager à nous recevoir. Ce que le geôlier refusa constamment de faire, disant qu'il aimait mieux quitter son office que de nous prendre sous sa garde. On nous envoya à une autre, où il en fut de même. Finalement, on nous mit dans une tour destinée pour le plus insigne criminel. Le geôlier, qui ne nous reçut qu'à son corps défendant, nous fit entrer dans un cachot affreux, et à l'aide de 5 ou 6 guichetiers qui avaient le sabre à la main, il nous enferra les pieds sur de grosses poutres, de manière que nous ne pouvions nous remuer. Et sans nous donner ni lumière, ni pain, ni quoi que ce fût, il referma le cachot et s'en alla avec ses guichetiers. Nous avions faim et soif, et nous criâmes à tue-tête plus de 2 heures pour qu'on nous apportât quelque nourriture pour notre argent. Enfin, quelqu'un vint au guichet et nous entendîmes que l'on disait « Ces gens-là parlent bon français ». Ce discours nous fit juger qu'il y avait quelques malentendus et quelques mystères dans la conduite que l'on tenait à notre égard. Nous nous mîmes encore à crier et à prier qu'on nous aidât pour notre argent, que nous étions prêts de donner d'avance. Là-dessus, le geôlier ouvrit la porte et entra accompagné de ses 6 guichetiers. Et après avoir examiné les uns après les autres, il nous demanda si nous étions français de nation. Nous lui dîmes que oui. « Mais pourquoi donc n'êtes-vous pas chrétien ?» nous dit-il, « et adorez-vous le diable qui vous rend plus méchant que lui ?» Nous lui répondîmes qu'il voulait apparemment badiner et qu'il nous ferait plus de plaisir de nous donner à boire et à manger. Et en même temps, je lui donnai 1 louis d'or, le priant instamment de nous donner pour cet argent ce qui nous était nécessaire, et ajoutant que, s'il n'y en avait pas assez, je lui en donnerais d'autres. « Vraiment, dit le geôlier, vous ne me paraissez pas tel qu'on vous a dépeint. Dites-moi donc franchement ce que vous êtes, car depuis 8 jours que l'on vous attend ici, on ne fait que parler de vous comme de gens qui êtes du pays du Nord, tous sorciers et si méchants qu'on n'a jamais pu vous vaincre sur les galères de Dunkerque et qu'on vous envoie à Marseille pour vous mettre à la raison, ce qui a été la cause que je vous ai reçu avec tant de répugnance dans cette prison. »